Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant, en vous apprenant, en vous rappelant. Ah, ça serait pas mal peut-être comme raccourci que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, parfois sur des petits écrans, parfois sur des grands, c'est un peu comme on veut. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre émission à Michael Nyman, un compositeur anglais né le 23 mars 1944, quelque part dans un quartier de Londres, issu d'une famille de juifs polonais marchands de fourrure, c'est ma petite fiche qui le dit. Donc, forcément, c'est vrai, et qui découvre très rapidement ses dons pour la musique, puisqu'il est éduqué, en tout cas, il apprend, notamment au Sir George Monoux's Grammar Schools de Walthamstow. Alors, Walthamstow, c'est un peu dur à dire. Bref, il étudie la musique et devient très rapidement un concertiste et un musicien émérite. Bien évidemment, nous allons nous intéresser essentiellement à sa carrière cinématographique, ou plutôt à ses compositions pour le cinéma, mais Michael Nyman est aussi connu pour être l'un des chefs de file du mouvement minimaliste, un mouvement musical avec des formes musicales, comme leur nom l'indique, peu élaborées, n'étant évidemment pas un jugement de valeur. Sa première musique pour le cinéma, il la signe en 1976 pour un film dont, je l'avoue, j'ignore tout. Keep It Up Downstairs, mais c'est en 1982 qu'il va connaître un début de célébrité en collaborant cette année-là avec un réalisateur qu'il va accompagner tout au long des années qui vont suivre, Peter Greenaway, un des grands cinéastes britanniques auquel peut-être nous consacrerons une émission de 24 notes secondes, mais dans ce cas-là, elle sera à nouveau exclusivement consacrée à Michael Nyman, puisque Peter Greenaway et Michael Nyman vont constituer tout au long des années un de ces duos, comme on en voit parfois au cinéma, Nino Rota, Fellini, William Spielberg, dans des genres très différents. Et pour Peter Greenaway, donc, en 1982, Michael Nyman composa la musique d'un film intitulé en anglais The Jotsman's Contract. Décidément, c'est pas mon jour. Et en français, puisque ça existait à l'époque en français, les titres de film Meurtre dans un jardin anglais. Ce qui, ma foi, n'était pas si mal approprié. J'ai été déjà assez bavard, sorry for that. On va donc écouter un extrait de cette bande originale, Meurtre dans un jardin anglais, le tout dans 24 notes secondes. We'll be right back. extrait de la bande originale de Meurtre dans un jardin anglais, In English, The Gentleman's Contract, un film de Peter Greenaway, l'un des premiers films de Peter Greenaway qui rencontra, ma foi, un certain succès pour un film qu'on n'hésita pas à comparer à Barry Lyndon. Pourtant, il n'y avait rien de plus éloigné que ce chef-d'œuvre de Stanley Kubrick du film de Peter Greenaway. Peter Greenaway, l'homme n'est pas que réalisateur, il est aussi peintre, monteur. D'ailleurs, maintenant, à ma connaissance, ses réalisations au cinéma se font rares. Par contre, ses activités plastiques continuent à être importantes. Et de fait, Meurtre dans un jardin anglais est tout à fait marqué par cet esthétisme décadent qui font qu'on les aime, les Anglais. Comme peut-être peut en attester la musique de Michael Nyman, vaguement empruntée à Henry Purcell, à la demande Purcell, c'est mieux, à la demande, paraît-il, de Peter Greenaway, qui était très friand, de musique ancienne. Et oui, Purcell, maintenant, c'est ancien, et donc adapté, détourné, caricaturé par un Michael Nyman, qui rencontra d'ailleurs un certain succès, rien que lui, avec sa partition, le film lui-même permettant à Peter Greenaway de commencer une carrière des plus bizarres, comme je l'ai déjà dit, accompagné par Michael Nyman. Et on va écouter tout de suite un extrait d'une seconde bande originale d'un film de Peter Greenaway avec une musique de Michael Nyman. Alors, ça s'appelle Prospero's Books. Peut-être que les moins ignares d'entre vous, non, mais je sais qu'il n'y en a pas dans les auditeurs de 24 notes secondes, se souviendront que Prospero, eh bien, c'est un personnage de Shakespeare, plus précisément de La Tempête, dont Prospero's Books se veut une sorte de variation un peu complexe, un peu particulière. Dans le rôle de Prospero, il y a Sir John Gielgud. Il y a aussi Michel Blanc. Alors ne me demandez pas, je l'ai vu, mais il y a si longtemps, John Gielgud, Michel Blanc. Il y a des appariements comme ça qu'on aimerait bien revoir. Allez, avant de faire ça, on va écouter un extrait de cette bande originale, Prospero's Book. Alors là, pour le coup, on ne l'avait pas traduit. C'était déjà la mode. Une musique de Michael Nyman dans 24 notes secondes. finit un peu brutalement un extrait de la bande originale de Prospero's Books, un film de Peter Gonoway, une musique de Michael Nyman. Ces deux-là ont beaucoup collaboré. On pourra citer parmi leurs autres titres, dont nous n'écouterons pas d'extraits musicaux. Celui-là, je l'aime bien. Le cuisinier, le voleur, sa femme et l'amant. En français, ça s'appelait comme ça. Il y a aussi un Z et deux zéros. Alors là, particulièrement... comment dire, bizarre, et puis aussi Drowning by Numbers, tout film qui repoussait parfois les limites du bon goût, mais qui en tout cas témoignait d'un sur-talent plastique de la part de Peter Greenaway, toujours illustré à merveille par son compositeur fétiche Michael Nyman, qui n'est pourtant pas que, et c'est bien pour ça que nous allons évoquer maintenant d'autres aspects de sa carrière cinématographique, mais je m'en voudrais d'oublier que l'homme a écrit un certain nombre d'opéras, et notamment un opéra intitulé « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », alors peut-être que le titre vous dira quelque chose puisque c'est celui d'un fameux livre d'Oliver Sacks. Il a aussi écrit et produit un opéra sur le clonage, alors ça j'aimerais bien le voir, qui s'appelle Facing Goya. Là on ne voit pas trop pourquoi, mais c'est parce qu'on n'a pas vu l'opéra en question. Donc à Montpellier, à Montpellier. Allez, un opéra de Michael Nyman à Montpellier, ce serait classe, non? Et puis on va maintenant passer à tout à fait autre chose, puisque si Meurtre dans un jardin anglais en 1982 avait marqué la première reconnaissance de Michael Nyman en tant que compositeur pour le cinéma, eh bien c'est en 1993 que l'homme va composer la musique pour laquelle il sera connu et celle qu'il y aura dans sa rubrique Nécrologie dans le monde. Et oui, à part moi, tout le monde aura une rubrique nécrologique dans le monde et donc elle commencera par Michael Nyman, bien connu comme compositeur de la musique de la leçon de piano, bien sûr, vous l'auriez peut-être deviné si vous avez été parmi les acheteurs fort nombreux de la bande originale de ce film de Jane Campion, tourné en 1993 et qui réunissait dans les rôles principaux Holly Hunter, Harvey Keitel et Sam Neill, un film qui était l'adaptation, on l'oublie parfois, d'un livre de Jane Mander qui s'appelle « Histoire d'un fleuve en Nouvelle-Zélande » et on voyait une jeune femme écossaise, interprétée, j'en bafouille parce que je la pensais sourde, mais c'était difficile à envisager, muette Holly Hunter, qui se retrouve en Nouvelle-Zélande où elle doit épouser un colon qu'elle ne connaît pas. Tout ça se passera dans un premier temps fort mal, dans un second temps fort bien. Ah, comme on aime les happy ends. Et comme le film s'appelle The Piano in English, et la leçon de piano en français, eh bien c'est bien parce que cette jeune femme, elle arrive en quelque part en Nouvelle-Zélande avec son piano. Et qui dit piano dit composition musicale, et on va écouter un extrait fort fameux de cette bande originale. Elle est de Michael Nyman, The Piano in 24 notes secondes. Thank you. Ah, toute la magie du cinéma, le piano, on voit bien où il est dans la jungle néo-zélandaise avec Holly Hunter qui tape dessus. Mais l'orchestre symphonique et les cordes et tout ça, ils sont où, hein? Ils sont cachés dans la jungle quelque part? Un jour, on fera un petit cours sur la musique diégétique et la musique extra-diégétique. Mais le moment n'est pas venu. Dans 24 notes secondes, un extrait de la bande originale de La Leçon de Piano, un film de Jane Campion tourné en 1993 pour lequel elle obtint cette année-là, entre autres, la Palme d'Or du Festival de Cannes. Et le croiriez-vous, c'était la première fois dans l'histoire du Festival de Cannes que la récompense était décernée à cette catégorie si particulière de la population qui s'appelle les femmes. Et oui, la première fois en 1993, honte au Festival de Cannes, il faut bien le dire, aux côtés d'Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, et bien tout le monde cette année-là a eu sa brassée de récompenses, puisque si le film n'obtient pas, je ne sais plus pour quel autre film, l'Oscar du meilleur film, par contre, Holly Hunter obtint, elle, l'Oscar, c'est mieux, de la meilleure actrice. Ah, l'Oscar, c'est pas beau. Je peux même aussi préciser que cette année-là, la Palme d'Or fut partagée avec quand même une femme, mais aussi un homme, le très joli, il faut le reconnaître, Adieu ma concubine de Chen Kaige. Et pour Michael Nyman, eh bien, ce fut l'occasion d'un bingo, puisque le film obtint beaucoup de succès, sa bande originale en obtint aussi, à tel point que plus tard, il nous en fit un concerto. Ma foi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même et que surtout, grâce à ce film néo-zélandais, eh bien, il put sortir du cadre parfois un peu étroit de la musique de film britannique et aller exporter son talent ailleurs et notamment, vous l'auriez deviné, à Hollywood, toujours prompt à reconnaître et à payer fort cher les talents pour, le plus souvent, les dénaturer. Mais là encore, c'est une autre histoire. Ainsi, on vit Michael Nyman, notamment, aux commandes de la bande originale du cultissime Bienvenue à Gattaca, tournée en 1997. Et puis aussi, on le vit pour une production britannique, mais largement internationale. On le vit aussi composant la musique de The End of the Affair, qu'on appelle en français la fin d'une liaison. Et là, je dois reconnaître que le terme anglais, The End of the Affair, c'est quand même plus classe que la fin d'une liaison qui vous a un petit côté Chabrol des années 70. En l'espèce, la fin d'une liaison, The End of the Affair, j'arrête. C'est un film de Neil Jordan avec dans les rôles principaux Julianne Moore, Ralph Fiennes et Steven Rea qui sont aux commandes, donc on l'a bien compris, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un trio comme on en a connu énormément, et un trio qui est inspiré d'un livre de Graham Greene publié en 1951 et qui s'appelait The End of the Affair. Oups, je l'ai refait encore. Roman qui avait bénéficié d'une première adaptation au cinéma par Edward Mitrick avec Deborah Kerr. On l'adore, il faut le préciser. Et Van Johnson, mais à l'époque, ça s'appelait en français Vivre un grand amour. Hein, comme quoi, évolution sociologique, 1955, Vivre un grand amour. 1991, La fin d'une liaison. Une triste époque, mais une belle musique dans 24 notes secondes. Moi, j'aurais pas fini comme ça, mais bon, je ne suis pas Michael Nyman non plus. Un extrait de la bande originale de La fin d'une liaison, un film de Dane Jordan, tourné en 1999 avec, dans le rôle principal, Julianne Moore. C'était la fin ou c'était la liaison, on ne sait pas trop. Julianne Moore, qui à l'époque était loin d'être aussi connue qu'elle l'est devenue après, puisque c'était seulement son deuxième film en vedette et que, comme peut-être vous n'ignorez pas, elle est américaine et que donc, eh bien, ça fait partie du métier d'actrice. Il lui avait fallu rendre crédible l'accent anglais, qui n'est pas du tout le même que l'accent américain, puisque le film se passait à Londres en 1939. Une histoire d'amour contrariée, vous l'avez compris, rien qu'avec le titre, qui, d'après ma petite fille, et ma foi, ma petite fiche n'a pas vraiment tort, en évoque quelques autres, notamment le Brève rencontre de David Lean, tourné Sophie Rodema de ma part en 1945, avec une musique d'un certain Rachmaninoff, et La valse dans l'ombre de Mervyn LeRoy, tourné à peu près dans ces années-là, et qui tous les deux se passaient à Londres ou à proximité, le grand cinéma romantique qu'avait essayé de ressusciter Neil Jordan, ma foi, pas toujours d'une manière bien convaincante, contrairement à la partition de Michael Nyman. Michael Nyman que nous avons bientôt fini d'évoquer, hélas, mais je m'en voudrais de ne pas dire que l'homme fut aussi un musicologue averti, puisqu'on lui doit un livre sur John Cage, un compositeur de musique expérimentale, on va appeler ça comme ça, plutôt connu, même, je l'imagine, des auditeurs de 24 notes secondes et de Divergence FM. Michael Nyman est aussi à la tête de son propre ensemble, puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, fort modestement nommé le Michael Nyman Band, qui joue des compositions de Michael Nyman, mais ça, je pense que vous l'auriez deviné. Et on va se quitter en écoutant la bande originale d'un film tourné cette fois-ci, je cherche ma petite fiche, en 2004, alors que j'avoue que je n'ai pas vu. Je ne suis pas sûr que ça me manque par contre, mais je ne devrais pas le dire. En anglais, ça s'appelle The Libertine. In French, pourtant le titre. En français, ça s'appelle Rochester, le dernier des libertins. Des fois, les titres français ont quelque chose d'un peu pesant. Un film britannique réalisé par Laurence Dunmore et qui nous conte l'histoire aussi véridique que tumultueuse, ça je ne l'ai pas inventé, hein, c'est sur la petite fiche, du comte de Rochester, vous l'auriez peut-être deviné, confident du roi Charles II. Le dit comte, eh bien, il est joué par Johnny Depp. Et oui, Johnny Depp, choix peut-être un peu improbable avec John Malkovich à ses côtés et Rosamund Pike. Mais là, c'est juste pour moi, Rosamund, parce que je l'adore et que c'est spécial dédicace Rosamund. Voilà, ça n'intéresse personne. Mais non, ça n'intéresse personne. La musique, elle, de Michael Nyman. Mais ça, je pense que maintenant, vous le savez. On va écouter un large extrait de cette bande originale, Rochester, le dernier des libertins. So 24 seconds about to end, see you, bye-bye, and all that sort of things.